Et vous écoutez France Culture. Peut-on sauver le monde quand on chose du 88 Lewis Trondheim. Et pas d'erreur, c'est le régent. Mauvais genre qui est heureux d'accueillir en ce samedi soir le Lewis Trondheim Show, spectacle où vous aurez tout loisir d'applaudir la résurgence de Lapino, les mésaventures pondérales et science-fictives de Chloé, Anna pris dans la lutte anti-zombie et Mildiou, roi malgré lui, débrotteur tout-terrain. Une émission que nous clorons avec la sortie DVD d'une rareté signée Richard Fleischer, Don Angelo est mort. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Genre, consacré ce soir à une des figures les plus importantes de la bande dessinée, Lewis Trondheim, que je salue.
Bonsoir.
Bonsoir Lewis Trondheim, alors je vous repose la même question, peut-on sauver le monde quand on chose du 88, puis il y a la phrase qui est en quatrième de couverture, donc de la dernière aventure, un monde un peu meilleur de Lapino, question.
Ça dépend, on peut choser du 88, être un lapin et on peut y arriver, ou alors on est un clown et c'est plus difficile.
Voilà, le lapin lui est doté de capacités rédemptrices rares et uniques.
Et alors que le clown est méchant, on le sait tous.
Voilà, que le clown est devenu avec l'âge de plus en plus cruel. Vous allez être livré aux questions sans pitié d'Antoine Guillot. Comment va-t-il ?
Eh bien, il va bien. Esprit d'enfance, macabée,
voilà, tout
super
ce qu'on aime.
Pouvoir et sens de la vie. On va se régaler.
Mon gros lapin. Et sinon, actualité du cinéma, puisque je rappelle, vous êtes quand même le producteur de Plan Large.
Oui, eh ben écoutez, Plan Large, ce matin, on a parlé, en début d'après-midi, on a parlé de Dreyer, donc on a parlé de sensualité, de filmer l'invisible, de la chair chez Dreyer, et même du paganisme chez Dreyer. C'est vous dire que Dreyer n'est pas celui qu'on croit, et puis la semaine prochaine, on parlera de Free Cinéma.
Très bien, vous êtes amateur de Dreyer?
Non, c'est plutôt de Gruyère.
Voilà, très bien. C'est bien donc Lewis Trondheim qui est avec nous ce soir. La preuve vient d'en être administrée. Vous aimez Dreyer, vous, Philippe Rouillet?
Ah ben, j'adore, évidemment.
Voilà.
Et le magnifique coffret dont on a parlé dans l'émission d'Antoine, chez Potemkin. C'est vraiment il y a un ensemble formidable. Il y a ses principaux longs métrages qui sont dedans dans des qualités sublimes. Enfin, je veux dire, revoir Hordette, c'est une nécessité. J'allais dire presque quotidienne.
Voilà. Et revoir notamment Vampire dans sa version vraiment très 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 belle où vous voyez le mal sous forme d'aérosol grisâtre. C'est assez stupéfiant.
Et je rappellerai aussi que nous étions à l'étrange festival et que nous remercions une nouvelle fois Frédéric Tand. Nous avons refaire la carte blanche avec un public présent.
Et qu'on peut remercier aussi.
Et qu'on remercie très chaleureusement parce qu'en plus il nous a écrit et on est vraiment ravis d'avoir pu montrer ces films qui ne sont pas forcément des films faciles.
Le gros
Philippe.
Travail de l'étrange pour récupérer des copies, voire fabriquer des DCP. Enfin, je veux dire, c'est aussi ça un festival comme celui-là. Hein. C'est pas juste aller piocher dans les catalogues des éditeurs et puis bricoler une programmation. Quand on a expliqué à Frédéric Tand les souhaits qu'on avait pour la programmation, il a vraiment fallu qu'il se mette en train pour exaucer nos désirs.
Et on le remercie de l'avoir fait. Donc, Mauvais Genre, ce soir, reçoit Lewis Trondheim. Mais avant cela, ouverture solennelle, comme tous les samedis en début d'émission, de l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres, qui va bientôt devenir un livre, on vous en dira plus, qui est évidemment La Chose de, ma chère Céline, bonsoir.
Bonsoir François. La lettre G comme Goblet, Dominique Goblet, auteur et dessinatrice de bande dessinée, et notamment de Plus si entente, qui met en scène une femme d'une cinquantaine d'années qui, après des désillusions, se met à chercher des hommes sur des sites de rencontres amoureuses. Et dans son fantasme, cette femme, qu'on appelle aussi la mère, va convier tous ses hommes dans son jardin au même moment. Donc imaginez, au centre du livre, sur une double page, un jardin rempli de candidats nus ou en slip qui pleurent de désir et d'émotion dans l'attente d'un regard ou d'un geste de cette femme. Plus si entente a été publié en 2014 avec le dessinateur berlinois Kai Pfeffer et a ensuite donné lieu à une série d'expositions mêlant dessins, objets, céramiques, textes, comme celle que l'on peut voir en ce moment à la Maison de la Culture à Amiens.
On a spécifiquement exploré un site qui était vraiment magnifique, qui s'appelle mignonne.com, tout est dit dans le nom évidemment, qui est un site, bon, on peut dire à coloration rencontre sexuelle coquine. Et sur ce site, on peut dire que la qualité première n'est pas la littérature. Mais du coup, en vérité, c'est un monde ouvert de poésie concrète, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent des choses extrêmement burlesques ou qui oublient des mots, ce qui donne parfois des situations très cocasses. On s'était comme ça rendu compte, par exemple, que un des mots les plus usités sur ce site, ou une expression, c'est « sans prise de tête ». Voilà, ça c'est l'expression qui revient pratiquement dans toutes les annonces, qui dit bien ce qu'il veut dire, évidemment. C'est « on se voit, on passe un bon moment, et puis après, tu me poses pas de questions, et il n'y a pas trop de lendemain non plus, quoi. » Et on est OK là-dessus à l'avance. Un exemple de petite annonce vraiment amusante, c'est un gars qui dit, voilà par exemple, « jeune homme, 22 ans, antillais, cherche femme sans tête. » Et donc il a juste un tout petit peu oublié un mot, mais en même temps c'est amusant, parce que pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une femme avec la tête? C'est pas absolument dans ce cas-là nécessaire, une femme sans tête convient très très bien pour la situation. Donc on a pas seulement fait une banque d'images, on a aussi fait une banque de textes, et donc on a relevé très très grand nombre de petites annonces comme ça, plus ou moins courtes. C'est un matériau qu'on a pu utiliser également dans l'exposition, et donc on a fait toute une série de portraits qui sont associés avec ces phrases prises directement sur les sites internet. Et donc on y voit des hommes, ces petits portraits, ça se passe toujours de la même manière, un homme en larmes, et puis on a une de ces phrases tirées des sites. Et c'est vrai que souvent on nous demandait, mais c'est pas possible, c'est inventé, vous les avez créés. Non, non, ils y sont tous pris textuellement de ces sites.
Et pourquoi en larmes?
Ça fait référence, non pas à la tristesse, mais à des larmes d'émotion. Les candidats sont en attente... sont très émotionnels, ils attendent la mer, ils touchent la grande intensité, l'intensité d'un amour qu'on va peut-être toucher, mais probablement pas.
Pour retrouver cet émouvant jardin des candidats de Dominique Goblet et Kai Pfeffer, rendez-vous à la Maison de la Culture à Amiens dans le cadre d'une exposition collective intitulée « Hors case, le 9e art contemporain ». Vous avez jusqu'au 15 octobre 2017 pour découvrir l'univers de 9 auteurs de bande dessinée qui ont choisi de sortir de la case, de la bande dessinée, pour créer un nouvel espace hybride, multigenre. Outre Dominique Goblet et Kai Pfeffer, on retrouvera Stéphane Blanquet, Ludovic de Burn, Christelle Hainaut, Lorenzo Matotti, Fanny Michaelis, Jérôme Mulot et Florent Huppert.
Merci ma chère Céline pour cette entrée. Dominique Goblet, donc, de notre encyclopédie pratique des mauvais gens. Vous êtes tenté de sortir de la case par moment, Lewis Trondheim?
Sortir de la case, c'est-à-dire faire autre chose que la bande dessinée?
De l'hybride, d'hybrider. Est-ce que vous êtes tenté par l'hybridation?
Moi j'adore la bande dessinée, c'est un milieu qui m'est très cher.
Donc pas de sortie de case.
Vous l'avez fait une fois, ouais. Vous avez fait un livret d'opéra d'après la bande dessinée que vous aviez faite avec...
Ah oui, on m'a mis un couteau sous la gorge, j'étais obligé, j'ai fait ça pendant un an.
Un livret d'opéra?
Oui, ça a été joué à Montpellier.
Avec la musique de?
Musique de Valentin Villeneuve. C'était d'après la bande dessinée que j'avais faite avec Yoran Garner, Politique étrangère.
Ah bon, est-ce que si l'objet est sorti en CD, nous y référerons.
2009, oui.
Parce que Montpellier édite souvent ses créations et ses nouveautés. Merci donc Céline. Et puis l'heure est venue maintenant pour nous de retrouver l'univers donc de Lapineau et le monde de Lewis Trondheim.
Thank you.
Why the Eye ? Très bonne question quand il s'agit de bande dessinée de choix de Laurent Polleret, comme tous les samedis, pour notre playlist Mauvais Genre sur France Culture. Lewis Trondheim, nous allons vous décerner une de nos plus hautes distinctions, la plus honorifique en tout cas. La présentation par Antoine Guillot. Chaque fois, je relance.
La présentation ne sera pas exhaustive.
La grande présentation d'Antoine Guillot.
Car nous n'avons qu'une heure d'émission et il sera difficile.
Alors, tenter de faire tenir en quelques minutes.
Il sera difficile d'y faire rentrer les 150 ouvrages. 150 plus ou moins, en 25 ans de publication, j'ai fait le calcul avec ma petite calculette et mes petits doigts, ça fait 6 livres par an, et pourtant il y eut une époque où Lewis Trondheim fut désœuvré. C'était en 2004, il publie un livre essai à l'association qui s'interroge un peu, on va pas trop dévoiler l'âge de Lewis Trondheim, mais disons que la quarantaine approche au moment où il écrit ce livre et où il se pose une vraie question importante. D'abord, il prend un moment où il ne publie plus rien, 8 mois, je crois, sans.
8 heures.
8 heures, voilà. La légende, c'était 8 mois dans le livre.
En vérité, 8 heures sans publier.
8 heures sans travailler pour Lewis Trondheim. Et il se pose la question de l'assèchement de l'inspiration chez le dessinateur. Pourquoi est-ce que.
Chez l'auteur de bande dessinée.
Pourquoi l'auteur de bande dessinée, au bout, et en ressortant les exemples bien connus de Franquin, de Gottlieb, arrive à un certain âge où tout d'un coup c'est soit la déprime, soit l'alcoolisme, soit pour certains la tentative de suicide. Il se passe quelque chose. Est-ce que l'auteur de bande dessinée peut bien vieillir? Voilà. Et c'est une question passionnante à laquelle Lewis Trondheim a trouvé des réponses, parce qu'après il y a eu autant de livres qui sont parus quasiment qu'il y en avait eu avant, qui sont tous habités. Et c'est ça qui est très fascinant dans l'œuvre de Lewis Trondheim. Je le dis, 150 livres par un esprit d'enfance, moi, que j'ai toujours ressenti très fortement. Alors pour ceux qui ont découvert Lewis Trondheim à ses débuts, notamment avec sa bande dessinée autobiographique qui s'appelle Approximativement, il racontait comment il avait le plus grand mal à avoir des souvenirs de son enfance, que le petit garçon timide et réservé à la limite du légume qu'il était, pour le citer, ne lui avait pas laissé beaucoup de souvenirs. Et c'est comme si cette enfance se prolongeait dans les livres avec un esprit qui est à la fois celui de la vanne, de l'esprit un peu sarcastique et ironique, mais aussi la bêtise, aussi l'idiotie, aussi presque la pensée magique par moment, avec un livre, moi, qui m'a toujours fasciné, qui était une de ses premières collaborations avec Larsonet, qui s'appelait Les Cosmonautes du Futur, un livre sur la paranoïa enfantine extraordinaire. C'est-à-dire que si vous avez été un enfant un peu seul, vous vous êtes dit, en fait, ce monde n'existe, a été fabriqué pour moi, tout le monde est faux, je suis le seul personnage vrai, mes parents sont probablement des robots ou des extraterrestres. Et il s'avérait qu'effectivement, les parents des enfants qui se posaient ces questions-là étaient des robots fabriqués par des extraterrestres. Voilà. Et cette idée qu'on peut prendre très au sérieux la bande dessinée en tant qu'enfant et en tant qu'adulte en même temps m'a toujours passionné chez Lewis Trondheim. C'est-à-dire que ce n'est pas le double sens qu'on peut voir dans les bandes dessinées de Goscinny, par exemple, où selon qu'on est un enfant ou un adulte, on va comprendre la chose différemment. Il va y avoir des clins d'œil, comme ça se fait dans le dessin animé contemporain à destination des adultes qui accompagnent les enfants pour dire ça, il n'y a que vous qui pouvez comprendre. C'est comme un point de fusion entre l'enfant qu'on a été et qu'on reste et l'adulte qu'on est malheureusement peut-être aujourd'hui, mais dans lequel on peut se retrouver. Et le dessin chez Lewis Trondheim vient de cette même de ce même esprit. Je vous rappelle quand Lewis Trondheim, qui a eu, il faut le dire quand même, le Grand Prix de la ville d'Angoulême en 2006, donc président en 2007, c'est lui qui a designé, on dira, les récompenses qui sont remises maintenant à Angoulême, le fauve. Souvenez-vous de l'affiche de l'époque. Ce n'était pas comme ça se fait généralement. On va dessiner sous son trait plusieurs personnages de bande dessinée pour faire regarder la bande dessinée, tous ces personnages, comme c'est formidable. C'était un point qui tenait un crayon. C'est-à-dire, c'est le dessin avant tout. Et une façon de dire en même temps, retrouver l'enfant que vous avez été pour. Les dessinateurs, on l'a raconté à de nombreuses reprises dans cette émission, sont des gens qui n'ont jamais cessé de dessiner, c'est-à-dire des enfants où il n'y a pas eu de rupture entre l'enfance et maintenant. Et chez Lewis Trondheim, c'est ça. C'est le dessin avant tout, mais le dessin pour raconter quelque chose. Voilà, une idée générale. Oui, et je n'ai réussi à citer quasiment rien.
La prolongation de l'enfance, c'est à peu près, c'est tout ça. Et parce que c'est un métier difficile, la bande dessinée. On est là, assis sur son siège, jour après jour, à répéter les mêmes personnages, les mêmes décors. Et s'il n'y a pas une petite part d'enfant qui est là en disant « Allez, montre-moi la suite, montre-moi la suite », on arrête.
Alors on a arrêté en 2004, pour revenir donc à se désœuvrer, ça, 2005, ça paraît juste après le dernier Lapineau en date à l'époque, donc où le personnage de Lapineau mourait, parce que j'ai parlé de l'enfance, mais la question de la mort est présente aussi depuis longtemps dans l'œuvre de Lewis Trondheim. C'était un petit personnage rigolo des genèses apocalyptiques dans une bande dessinée philosophique où il y avait Dieu, il y avait la mort, il y avait des grandes questions qu'on se posait de manière assez drôle, mais qui revenait dans les moments autobiographiques avec ces petits carnets, les petits riens de Lewis Trondheim, où se pose aussi la question de voilà, l'âge qui vient, le vieillissement. Mais un moment qu'il me semble important et qui a donné ce Lapineau, ou Lapineau mourait, qui s'appelait La vie comme elle vient, il me semble que c'est la mort de Guy Vidal, qui était un grand éditeur de bande dessinée chez Dargo, qui était le créateur de Poisson Pilote, et d'ailleurs La vie comme elle vient lui est dédiée, hein, si je me souviens bien. Et à partir de là, il y a eu malgré tout, derrière le côté très déconnant qu'il peut y avoir, très drôle de l'œuvre de Trondheim, quelque chose de grave qui a fini par s'installer. Et on va parler tout à l'heure de la série Ralph Azam, mais pour moi cette série, toute drôle et échevelée dans l'aventure qu'elle soit, est habitée par cette gravité-là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Oui, Trondheim. C'est sûr que Ralph Azam, en tout cas, c'est tragicomique. J'ai toujours voulu faire en sorte que ce soit à la fois drôle, amusant, parce qu'on est comme ça, mais que la vie n'est pas que drôle et amusante. Mais après, j'axe pas tout non plus sur cette thématique-là. La thématique dans Ralph Azam, c'est plutôt le pouvoir, l'abus de pouvoir, plutôt que la mort. Alors qu'effectivement, Lapineau, c'était plutôt des amis qui s'amusaient jusqu'à ce que mon éditeur meure.
Oui, mais si on prend une série comme Donjon, par exemple, qui est donc parodie de Donjons et Dragons, première aventure dans l'heroic fantasy, mais vraiment sous la forme parodique, et la série est devenue de plus en plus grave aussi par.
Ça dépend, parce que Donjon est écrit à deux avec Johan Svar, donc chaque album est indépendant, même si chacun fait une petite brique et construit le donjon en entier. Le souci que moi que j'avais sur Donjon, c'est la magie. On peut parler de magie dans l'univers d'Hero Fantasy. Et en fait, avec Johan, on avait fait un peu. Il y a des magiciens qui font un peu tout et n'importe quoi. Comme Gandalf dans Le Seigneur des Anneaux. Et à un moment, il arrive, il y a des chevaux qui arrivent, je sais pas quoi. Enfin, il arrive à tuer le dragon, peu importe. Mais on sait pas comment, on sait pas pourquoi, on sait pas jusqu'où il peut utiliser de cette magie-là. Donc moi, je voulais pas dans Ralph Azam faire ça, je voulais faire un truc inverse où la magie n'existe pas. La magie, c'est juste des faux magiciens qui ont des tours de passe-passe, point final. Donc ça m'amusait comme un des points de départ.
Voilà, mais la différence que je pointais moi entre Donjon et après on va arriver à Lapineau. François, je vois les gros yeux. Vous me faites, c'est que
j'écoute, t'as le gros yeux de Lapin.
Quand il y a des morts dans Donjon, c'est l'aventure, on se tue, on se coupe en morceaux, etc. Tout ça n'est pas très grave. Quand il y a des morts dans Ralph Azam, ils ont parfois des fantômes extrêmement vengeurs. Quelqu'un qui meurt, ce n'est pas rien. Tuer quelqu'un, ce n'est pas rien. Et c'est là que je vois l'esprit de gravité qui excède peut-être celui du jeu.
Voilà, c'est ça. C'est pas comme Game of Thrones où il y a des personnages forts qui vont mourir, mais on sait qu'il peut arriver des choses graves. On sait qu'il y a des gens qui ont vu des choses qui se passent dans le futur qui sont graves. J'aime bien l'idée qu'on ne sait pas trop à quoi s'attendre album après album. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'intéresse, c'est que je suis mon premier lecteur et j'ai envie de découvrir la suite et d'être moi-même surpris.
Vous êtes, allez, je vous la laisse, François. Après, vous êtes votre premier lecteur. Pour moi, on va aller justement vers là. Vous êtes votre premier lecteur. Ça, vous l'avez souvent répété.
Oui,
vous
parce
êtes
que je travaille en improvisation.
Vous êtes
tout
très instinctif. Mais à quel point vous êtes dans l'improvisation? Parce qu'il y a quand même une cohérence. Moi, je reviens encore à Ralph Azam. Il y a une cohérence de l'univers, des thèmes, de ce qui se passe. Moi, j'étais déchiré par la dernière case du dernier Ralph Azam, qui vraiment vous met dans un état de, pour peu que vous soyez attaché au personnage, et il n'est même pas question de mort. C'est pas une mort symbolique qu'il y a dedans, mais ça m'a vraiment bouleversé, comme rarement on peut s'y attendre dans une bande dessinée publiée dans Spirou chaque semaine. À quel point justement l'improvisation est là et ce genre de fin d'un épisode s'impose?
Pour cette fin là je l'avais au tout début de l'album. Par contre, quand j'ai commencé l'album, je venais de faire une série qui s'appelait Bloody, c'était un strip par jour pendant un an, et je savais pas quoi faire. Je me suis dit, tiens, comme Johan ne veut plus faire de donjons, je vais faire de la fantasy. Et ce que je me suis juste dit, c'est que je commence par une grande case avec un personnage qui se bat contre un monstre et un autre personnage qui regarde. Et je ne savais rien du tout de Ralph Azam. Rien. Et en faisant cet album-là, page après page, à la fin du premier album, j'avais à peu près la séquence sur les sept premiers albums qui allaient se dérouler. Mais c'est,
C'est-à-dire qu'en travaillant, vous êtes déjà dans...
Oui, parce que je travaille vite, mais en même temps, je fais une page en 2 heures, 3 heures, et pendant ce temps-là, j'ai le temps de réfléchir à la suite. Parfois, un petit peu trop, et je me dis, mince, si je meurs avant d'avoir fini, comment je fais? Donc, je dis le truc à mon fils. Et après, quand je me retrouve en voiture avec mon fils, je me dis, merde, si on meurt tous les deux là dans la voiture, qu'est-ce que je fais? Il n'y aura plus de Ralph Azam. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça.
Lewis Trondheim, l'invité de Mauvais Genre ce soir sur France Culture. Bah, on parlait de Lapineau, on va s'intéresser bien sûr au dernier album paru à l'association Un Monde Un Peu Meilleur. Miller, un choix de Laurent Polleret. Alors, Antoine, il faut d'abord définir la place de l'album dans l'architecture générale de la geste de la saga de Lapineau. Il y a d'abord donc eu les formidables aventures de Lapineau en 9 tomes. Après, les formidables aventures sans Lapineau, on est bien d'accord. Alors là, c'est en 4 tomes. Et maintenant, nous avons les nouvelles aventures de Lapineau. Alors, avec Lewis Trondheim, expliquez à nos auditeurs un petit peu là. La geste de Lapineau.
Alors la geste de Lapineau recouvre la geste d'une maison d'édition fameuse qui est l'association où est publié ce monde un peu meilleur dans un format tout à fait classique de la bande dessinée franco-belge qui est le fameux 48 CC qui donne son nom à cette nouvelle collection de l'association, c'est-à-dire 48 pages cartonnées couleur. Voilà, alors les Lapineau au début n'est pas du tout né dans ce genre de format, il est né dans un livre assez impressionnant et mythique de 500 pages qui s'appelle Lapineau et les carottes de Patagonie qui est le livre par lequel selon la légende Lewis Trondheim a appris à dessiner et c'est pas simplement une légende parce que si vous regardez la première case de Lapineau et les carottes de Patagonie avec ce trait très épais pour cacher peut-être une certaine maladresse dans la façon de camper les personnages et de raconter l'action et les dernières pages qui ont été réalisées elles non longtemps après, hein, parce que je crois que vous aviez fait 440 pages et laissé tomber
voilà, il y a à peu près 2 ans entre la première case et la dernière case.
Voilà, et ben on voit qu'effectivement, c'est une façon formidable d'apprendre à dessiner, d'ailleurs.
Mais surtout, c'est vrai que j'ai appris à dessiner, mais j'ai surtout appris à raconter.
Voilà. Ouais. Et ce livre a eu cet impact-là, justement, au moment où il est sorti, avec d'autres ouvrages qu'éditait l'association et par la suite des éditeurs indépendants comme notre cher Cornelius.
Sachant aussi qu'à la base, ce n'était pas un livre qui était prévu pour être publié, c'était juste comme ça pour moi dans mes tiroirs, je ne voulais pas que ce soit vu.
Voilà, mais c'était un bon exercice. Mais le fait de l'avoir publié a montré à toute une génération, et c'est le grand apport, mais on ne va pas refaire toute l'histoire de la bande dessinée à partir des années 90, mais que faire de la bande dessinée, c'était d'abord raconter une histoire, justement, quel que soit le moyen, on n'était pas obligé de maîtriser le dessin académique, la perspective.
C'est aussi de se dire, la bande dessinée, c'est une écriture, c'est juste un moyen d'écrire spontanément, naturellement, plutôt que de passer des heures et des heures à faire un personnage, les trous de nez, tous les sourcils. On peut faire ça beaucoup plus simplement.
Voilà, et on peut donc dessiner quasiment aussi vite qu'on écrit. En tout cas, c'était le sentiment qu'on avait donc, dans cette aventure échevelée, rocambolesque, incroyable, qu'est Lapineau et les carottes de Patagonie. Le personnage continue à exister dans la revue Lapin de l'association. Il s'appelle Isabelle Lapineau, dit-on, à cause du personnage de Lapo, créé par Jean-Christophe Menu, en clin d'œil. En tout cas, ce personnage s'installe, il va vivre plusieurs aventures, il va aller au ski, par exemple, ça va donner l'album Slalom, et puis il va Slalom, on va parler de Mildiou, qui vient d'être réédité également, il va vivre des aventures, voilà, de KPDP au Moyen-Âge, et puis ce personnage va intégrer l'édition classique, on parlait de Guy Vidal tout à l'heure, qui crée la collection Poisson Pilote chez Dargaud, et là, ce qui était au départ des petits livres en noir et blanc, comme faisait l'association, devient un 48cc, c'est Slalom qui est redessiné entièrement, histoire, je crois qu'il y a peu de dessinateurs, hormis Hergé, qui ont dessiné ou fait redessiner.
Ou l'a fait redessiner, lui, voilà. Il l'a pas fait lui-même.
Voilà. Donc vous l'avez fait vous-même, et ça a été le numéro zéro de la série des Formidables Aventures de Lapineau, et alors, dans un art du contre-pied permanent, pour ne pas s'installer, justement, on parlait de la sclérose du dessinateur de bande dessinée qui fait ad vitam aeternam du Lucky Luke, par exemple, en finissant par se photocopier lui-même, lui va utiliser ce personnage de Lapineau et la troupe qu'il a créée, parce qu'il y a Lapineau, il y a Richard. Le copain, alors Lapineau est un lapin, comme son nom l'indique, hein. Richard, c'est moins évident, c'est un chat, alors lui, habité justement par l'esprit d'enfance dont je parlais, c'est le chat un peu immature, parfois idiot, qui fait des blagues débiles et qui aime beaucoup faire des conneries. Il y a un chien, c'est Titi, alors lui c'est plutôt l'homme à femme, incapable de se fixer, etc. Et toute une galerie de personnages qu'on va pouvoir utiliser comme des comédiens. Alors Lapineau, on va l'envoyer dans le western par exemple, ça sera Blacktown, il sera dans les années 20-30 à Paris dans une enquête avec des accents de Lovecraft, de personnages qui se transforment en monstres, il sera même dans la comédie romantique à l'anglaise, ça sera Vacances de printemps, et entre chacun de ces livres, il y aura même un Spirou et Fantasio, en fait, à la sauce Lapineau, ça sera l'accélérateur atomique, et entre chacun, Lapineau est dans un monde contemporain, voilà, et là c'est presque une histoire à suivre, mais qui peut même se suivre dans ses relations avec le personnage dans le passé. Il va découvrir l'amour, par exemple en la personne de Nadia, alors parfois la séduction va s'opérer dans le monde contemporain, parfois elle va se faire dans l'époque de l'Angleterre romantique, et puis revenir, avec cette particularité que chacune des aventures contemporaines sont habitées par le fantastique. Il y aura à chaque fois des éléments, alors ça peut être un extraterrestre qui sera tombé sur la Terre, une mystérieuse malédiction, ça c'est dans Pichenette, qui provoque des catastrophes chez celui qui est atteint de cette malédiction, qui sera une manière justement de dévier un peu le cours du contemporain, et ce sera le cas encore dans ce nouveau. Alors après, Lapineau meurt, on l'a dit...
Alors justement, pourquoi
on l'a dit tout à l'heure, et ça sera les Formidables Aventures sans Lapineau, et maintenant c'est le retour de Lapineau à l'association... revenant à ce format.
Voilà. Strandheim, comment s'impose une aventure de Lapineau entre les allusions passées, le monde contemporain, la mort, la résurgence, puisqu'il ne s'agit pas de résurrection, comme vous le dites. Comment le personnage, vous le gérez? Vous le gérez dans l'improvisation? Vous le gérez dans une sorte de plan à long terme? Quel est un petit peu votre...
Non, j'ai jamais eu de plan à long terme. C'est toujours l'improvisation, l'effet immédiat pour moi. Quand j'ai décidé qu'il meure dans la vie comme elle vient, c'était pas lui qui devait mourir là-bas, c'était un autre personnage. Et puis au bout de 10 pages, je me suis dit que c'était pas possible. Je parlais de la mort. Il fallait pas que ce soit quelqu'un d'autre qui meure. C'était forcément le personnage principal. Et puis ça m'arrangeait à un moment aussi parce que à 40 ans, je voulais pas être coincé avec le personnage de Lapineau toute ma vie. Et je voulais faire d'autres choses. Et quand j'ai décidé qu'il mourait, pour moi, c'était hors de question de faire d'autres albums de Lapineau. Et là, je l'ai repris parce que j'avais des choses à raconter sur notre société, parce qu'il s'est passé des choses en 10 ans.
Il s'est passé aussi des choses dans l'édition, en disant, pour finir sur cette question de format, l'association s'était créée en partie contre ce format qui obligeait un dessinateur qui avait un projet à le faire rentrer dans ce nombre de pages limité, dans un format, dans l'alignement général, dans l'idée que l'artiste reprend le pouvoir dans la maison d'édition, le livre doit avoir la forme générée par l'histoire qu'il raconte. Et là, c'est presque un coup de pied de l'âne, presque un clin d'œil aux origines de l'association, mais aussi au fait que tous les éditeurs ayant adopté le format des livres édités par la association, souvent en moins bien, mais en se disant qu'effectivement, il s'était créé une nouvelle niche, donc il fallait l'occuper, et que par ailleurs, c'est quand même très bien comme format. Il y a d'excellents albums dans l'histoire de la bande dessinée qui ont pris ce format-là. Pourquoi pas le réinvestir?
Oui, en fait, on a toujours aimé ces formats-là. On a toujours aimé les albums de Franquin, d'Hergé, etc. C'est juste qu'à l'époque, en 90, on n'avait pas les moyens de faire des albums cartonnés couleurs à l'association. Et on s'était dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Il y en a déjà plein qui le font. Faisons des choses différentes. Je parlais d'écriture tout à l'heure. Faisons de l'autobiographie, faisons du reportage, faisons plein de choses. Mais on aurait eu les moyens. Peut-être qu'on l'aurait fait. Et là, le fait de refaire, parce qu'effectivement, les autres éditeurs nous ont pris cette niche-là, c'est amusant, mais c'est pas... Pour moi, c'est pas le principal, quoi. Le principal, c'est de dire, voilà, j'ai créé un personnage en 90 à l'association, il revient parce que, des années après, j'ai plus envie d'être chez des gros éditeurs systématiquement, j'ai envie de faire vivre cette structure qui m'est chère, parce que c'est un instrument pour moi... formidable association pour publier des jeunes auteurs, publier des livres plus difficiles. Donc si le fait de faire un livre comme ça permet à côté de faire des choses un peu plus complexes, plus radicales, moi je suis ravi.
Mais le livre est complexe, malgré tout. C'est ça qui est assez beau.
On va tenter d'en résumer.
C'est-à-dire que ça ne transige rien sur cette façon de raconter du quotidien, des événements qui pourraient presque être anodins, enfin, qui n'ont pas la dramaturgie qu'on peut attendre d'un livre et d'une histoire, qu'elles soient en bande dessinée ou pas, où malgré tout des tas de liens narratifs se croisent. Donc on a, pour résumer un peu vite, Lapineau, donc, qui n'est plus mort, l'histoire est évacuée dès les premières...
On va lire le début,
si
tu mourais... Tu voudrais pas que j'aille dans un univers parallèle où tu n'es pas mort et que je te ramène ici n'importe quoi? Bah non, ça ferait plaisir aux gens d'ici à qui tu manquerais. Oui, réponse de Lapido, mais après, je manquerai aux autres d'un univers parallèle où je ne serai plus. Voilà, ça c'est un moment Trondheim un peu caractéristique.
Voilà, alors le moment étant évacué, on retrouve un peu la même comédie de mœurs, les personnages gardant peu ou prou leur personnalité. Parce que Lapino, il faut le rappeler, c'est quelqu'un qui est assez empreint de justice, moralisateur, qui se pose toujours la question, est-ce qu'il faut le faire ou pas, qui donne un peu des leçons.
Il est donneur de leçons, il est un petit peu boy scout, mais il a bon fond, mais il sait pas qu'il peut être un peu chiant.
Voilà, et alors parfois les autres autour de lui le trouvent un peu. Alors dans l'épisode précédent, il y avait eu une sorte de malentendu avec cette Nadia, donc le personnage aussi avec qui il construisait une histoire d'amour, de livre en livre. Et là, il se pose la question, est-ce qu'il va essayer de la reconquérir ou pas? Et puis en même temps, côté moralisateur ou pas, il aime pas trop la façon dont elle se comporte, parce que Nadia est journaliste pour la télévision et elle recherche toujours le bon scoop un peu crapoteux, du genre quelqu'un en train de mourir, une histoire.
C'est pas ça tout à fait.
C'est le cas.
Il faut la repêcher un petit peu. Nadia, elle est pas si méchante que ça. Elle est plus avec Lapineau. Il faut qu'elle vive, qu'elle paye son appartement. Là, elle a un CDD avec une station de une chaîne d'info, quoi, en continu.
Ouais.
Et elle veut absolument avoir un scoop pour avoir un CDI. Donc c'est juste un truc de femme qui veut être libre, qui veut s'en sortir toute seule. Donc effectivement, et par ça, donc elle va toujours avoir son petit téléphone à la main. Et s'il y en a un qui peut trébucher, elle va le prendre en film pour gagner sa croûte.
Mais voilà la complexité dont je parlais, c'est que les personnages ont toujours des raisons objectives aussi de faire ce qu'ils font. Alors ça commence par un moment typiquement trondheimien de volonté de réagir à une injustice flagrante, vraiment quelqu'un qui se comporte mal et à qui il faut donner une leçon. Donc en l'occurrence, c'est quelqu'un qui se gare mal dans la rue et qui abîme la voiture d'à côté. Mais Richard, toujours un peu déconnant, fait croire que c'est sa voiture à lui, donc il se fait casser la gueule, et tout ça engendre toute une série de péripéties, alors qui aurait l'air un peu minuscule, mais qui mise tout ensemble, brosse un portrait de la société d'aujourd'hui, qui est celle, alors on a parlé des chaînes d'infos en continu, mais aussi des sites de rencontres, mais aussi de la panique qu'on a du terrorisme islamiste, et puis avec cet élément surnaturel dont je parlais, qui vient toujours dans les histoires contemporaines, cet homme qui est capable de voir les auras des gens, et donc il sait, là encore, fantasme enfantin total, comment savoir si quelqu'un ment ou pas, si quelqu'un est bon ou mauvais, qui peut voir, lui, immédiatement, si les gens sont bons ou mauvais. Et comme toujours chez Trondheim, quand on a un super pouvoir, c'était le cas dans Alphazam,
c'était le cas
dans Density, on va en parler, on va voir très logiquement
Qu'est-ce que ça implique, ce pouvoir, et en quoi ça peut créer du débordement
alors
dans
là,
le monde
Lewis Trondheim, on est dans un contexte assez réaliste quand même dans Lapineau, mais là, il y a une incursion de la fantaisie et du merveilleux, mais qui est vécu de manière assez prosaïque. Après tout, il donne des informations paranormales.
D'autant qu'il y a une explication quand même à ce pouvoir.
Voilà, c'est un mec qui est cobaye pour deux laboratoires différents, ce qui est interdit, et c'est ce qui a provoqué cette vision des auras. Mais effectivement, moi, ce que je fais généralement dans mes albums de Lapineau ou de Ralph Azam, il y a toujours un élément totalement improbable, impossible, surnaturel, et je fais en sorte que ce soit crédible parce que je vais tirer le fil de la logique. Donc là, dans tout l'album, c'est un petit peu ça. Je me dis voilà, donc il y a Richard qui est idiot. Lui, ce qu'il veut, c'est récupérer aussi les mêmes médicaments, puis voir la même chose, et puis après aller voir les policiers, dire lui, il est méchant, lui, il est gentil. Mais après, il commence à réfléchir, et il se dit oui, effectivement, c'est pas si simple que ça, parce que comment on me voit moi, comment est-ce qu'il va y avoir des lynchages, est-ce que qui va gérer tout ça
et, est-ce que j'ai envie de voir ma copine
Mais ce qui est bien chez Richard, c'est qu'il est vachard. Ça, c'est, il y a pas mal de vos personnages.
Je suis pas sûr qu'il soit vachard, je crois qu'il a pas de filtre.
Voilà. Alors, oui, c'est ça. C'est pas vachard, c'est, voilà. Sans surmoi.
Voilà. il a un truc en tête, il le dit tout de suite, ou il veut faire quelque chose, il le fait. Et en même temps, on se dit, ok, c'est l'élément comique de l'album, et en tout cas, dans les albums de Lapineau, il y aurait pas Richard, on s'ennuierait sans doute un petit peu. Mais, au final, dans l'album, c'est lui qui va sauver Lapineau, parce que, tout va de mal en pis par rapport à ce que Lapineau a voulu faire au début. Et Lapineau est désespéré à la fin. Et c'est Richard qui va le chercher par le coude et qui lui dit, écoute, non, c'est ma faute, arrête, je suis désolé. Donc, lui aussi, on peut le sauver.
Mais la construction est assez merveilleuse parce qu'on a l'impression d'un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un élément déclenchant hyper fort. Alors qu'on a l'impression que c'est une suite d'anecdotes, elles ont une interaction en elles pour créer une espèce de nœud dramatique et qu'il y a une tension qui monte au fil des pages.
La comparaison de la boule de neige, à mon avis, est excellente parce que justement ça roule, la pente fait grossir la boule et là c'est le drame qui grandit au fur et à mesure les anecdotes s'enchaînent.
Voilà, il y a ça et il y a en même temps effectivement il y a trois ou quatre trames parallèles qui s'imbriquent les unes dans les autres, qui se redétachent, qui reviennent ensemble, comme dans la plupart des séries télé qu'on peut voir aussi. Moi, j'aime bien, ça me permet d'aller plus vite dans l'action, ça me permet de parler de plein de choses.
Soap-opéra, peut-être un peu aussi.
Côté soap-opéra, mais c'est un truc, c'est un système, mais j'essaie de faire en sorte que ce soit pas trop visible non plus, j'essaie de m'amuser avec. J'ai toujours peur des ficelles. Une fois, je rencontrais Jean Van Hamme, qui donc scénariste, qui fait 13 et tout ça, et qui m'a dit j'ai lu ton j'ai lu ton album Blacktone, donc le western, et ben je l'ai relu une deuxième fois pour comprendre comment tu avais fait la trame. Je me suis dit ok, mais j'ai pas fait de trame, j'ai improvisé comme d'habitude, mais lui il avait besoin de savoir comment j'avais fabriqué quel système j'utilisais, donc j'essaie de me rassurer en me disant que je dois avoir un inconscient qui fait que ça fait les choses automatiquement plutôt de façon correcte, mais j'en sais pas beaucoup plus que ça.
Il y a un plaisir de compter, vous le disiez au départ, vous avez appris à dessiner, en même temps vous avez appris à compter à travers la bande dessinée, et je pense que c'est cette bouteille et ce goût de raconter des histoires, de raconter des personnages, parce qu'à chaque fois c'est les personnages qui interagissent entre eux, c'est le caractère de Richard qui va les entraîner, ou de Lapineau qui va les entraîner dans une
aventure. Oui, parce qu'effectivement ce nouveau Lapineau, j'aurais pu faire d'autres personnages, mais j'avais déjà des personnages qui existaient, je me dis c'est pas la peine d'en inventer des nouveaux, et une fois que j'ai une situation et des personnages qui existent, en fait je les mets ensemble et ça joue presque tout seul.
Mais ces personnages, ils existent depuis très longtemps, et j'ai le sentiment même avant Lapineau, ou en tout cas en même temps que son existence. Je me souviens d'un moment d'approximativement votre bande dessinée autobiographique où vous sortez de votre tête plusieurs Lewis Trondheim en disant celui-là c'est le boy scout qui veut toujours la justice, celui-là c'est le gars pénible qui veut toujours avoir raison, celui-là c'est celui qui ne sait rien à rien et qui veut jouer qu'aux jeux vidéo, etc. Et c'est comme si chacun de ces personnages que vous aviez sortis de votre tête s'était incarné dans un des personnages de la galaxie Lapineau, ce qui les rend extrêmement vivants, et on a comme le sentiment que leur façon de parler, vous êtes un dialoguiste extraordinaire, vient presque d'un dialogue avec vous-même.
Oui, c'est clair que Lapineau, c'est mon côté un peu chiant, et que Richard, c'est mon côté un peu déconneur. Donc je me suis splitté là pour en deux pour faire ces deux personnages-là. Mais bon, je réfléchis pas trop au niveau des dialogues. Après, on m'a dit ah, mais t'as inventé un truc au niveau des dialogues, c'est beaucoup plus réaliste qu'avant. Tu fais des BD, c'est plus réaliste que des BD réalistes avec des personnages qui sont dessinés presque d'après photo. Et effectivement, il y a un côté très caricatural dans les bandes dessinées un peu classiques, genre on va dire Bugdani ou 13 ou tout ça. Et dans mes bandes dessinées, on pourrait dire ouais, ça peut arriver. À part l'élément fantastique, en tout cas, les rapports de personnages, j'ai l'impression que les personnages sont un peu incarnés, ce qui me fait plaisir.
Un monde un peu meilleur de Lewis Trondheim, les nouvelles aventures de Lapineau, c'est à l'association.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Lewis Trondheim, l'invité ce soir de Mauvais Genre. Alors, deux albums, disons, qui relèvent directement de la science-fiction. Le premier, c'est Density, Lewis Trondheim, le dessin Stan Evans et Walter, chez Delcourt. Alors là, Antoine, on a une idée de départ, qui est quand même extrêmement simple, d'une efficacité redoutable, et c'est là où on voit toute la virtuosité scénaristique et la capacité à mettre en œuvre un point de départ, comme ça, narratif de Lewis Trondheim. C'est une jeune fille qui, suite à un contact extraterrestre et à l'acquisition d'un super pouvoir, eh bien, est dotée de transformations pondérales de manière redoutable.
C'est pas tant pondéral, c'est une transformation de sa densité.
Psychologique et pondérale.
Ça ne s'appelle pas Density pour rien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui découvre, alors elle va le maîtriser, j'imagine, dans les albums qui suivent, sa capacité à changer sa densité. Donc elle peut devenir extrêmement gazeuse d'une certaine manière, très, très légère et passer à travers les murs, ou devenir extrêmement dense, dure comme la pierre. Et si d'ailleurs elle est trop dure, elle s'enfonce jusqu'au centre de la Terre. Et alors là, on est vraiment dans on parlait de Ralph Azam tout à l'heure avec des personnages qui ont tous un peu des pouvoirs qui leur ont été donnés. Là, on est dans l'idée de la bande dessinée de super-héros classique à la Marvel.
Avec un pouvoir, une caractéristique qui n'est pas demandée, qui brusquement est accidentellement procurée.
Oui, mais c'est le principe des super-héros de la Marvel. On se fait piquer par une araignée, on devient Spider-Man, etc.
On est irradié.
Sauf que là, le réalisme dont parlait Lewis Trondheim tout à l'heure est tout à fait à l'œuvre. C'est de dire qu'est-ce que c'est que ce pouvoir et comment est-ce qu'on peut l'utiliser de manière très concrète. Il me semble qu'il y a dans les X-Men, il y a un personnage qui a un peu un pouvoir comme ça, mais alors c'est n'importe quoi. Elle passe la main à travers la porte et elle ouvre la porte de l'autre côté, donc elle se densifie en même temps qu'elle ne l'est pas, ce qui serait absolument impossible. Là, on se pose une question très concrète et là encore, c'est le fil logique qui se déroule.
Si on peut changer sa densité, comment on peut gérer ça? Donc si elle est très légère, elle ne peut rien attraper. Si elle est très très lourde, elle est tellement dense qu'elle ne peut pas bouger. Donc il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. C'est toujours bien d'avoir une espèce de kryptonite quand on a un super pouvoir, sinon c'est pas rigolo. Mais ce qui m'amusait aussi, c'est que c'est pas juste, elle a pas juste ce pouvoir là comme ça. En fait, c'était destiné à son frère qui lui est suivi par un observateur, c'est-à-dire un extraterrestre qui observe les humains sans jamais intervenir. Mais comme il sait qu'il y a des méchants extraterrestres qui vont arriver, il veut sauver la planète Terre, mais pas pour une raison très noble. Il veut juste parce qu'il est fan des séries télé. Donc il donne le super pouvoir à ce mec là en fait, ça va aller à sa sœur, pour voir la suite des séries télé parce qu'il est trop accro.
Est-ce que quand on dessine, quand on écrit, j'ai dit dessiner, mais je pense que vous dessinez vos scénarios probablement.
Oui, je dessine mes scénarios, bien sûr.
Est-ce que vous pensez aux dessinateurs? C'est-à-dire, est-ce que ce livre est écrit spécifiquement pour Stan Evans, leur capacité à dessiner de belles jeunes femmes et des monstres pareillement?
Stan, il adore dessiner les monstres et Evans adore dessiner les jolies filles. Donc nous, ça fait 25 ans qu'on se connaît. J'aurais dit à un moment, écoutez, on va faire un truc ensemble, je vais faire un truc sur mesure. Je leur ai dit, où est-ce que vous voulez que ça se passe? Alors, on a parlé des États-Unis assez rapidement, mais le deuxième album, j'ai demandé à Stan qui dessine les décors, tu veux que ça se passe où? Pourquoi pas le Japon? Allez, on y va, ça se passera à Tokyo. Je suis aussi dessinateur, donc je sais que ça peut être pénible de dessiner des pages et des décors. Donc j'essaie de faire un minimum plaisir à mes copains.
Est-ce que vous pensez à des choses que vous ne pourriez pas dessiner quand vous écrivez un scénario pour d'autres?
Ah bah là, en tout cas, sur Dan City, oui, c'est clair que dessiner Las Vegas en plongée contre plongée, je m'y risquerai jamais, c'est trop compliqué. Et moi qui suis très paresseux, mais eux, ils adorent, donc je suis content.
Deuxième album, Infinity 8.
Alors, deuxième album... Alors
ça, c'est un deuxième, enfin, deuxième, de, évoqué de, ce de, soir, mais c'est un tome 5.
De 2 à 10, on va dire, puisque Infinity 8, il va y en avoir 8.
C'est le cinquième du nom.
Le 8 est le chiffre qui gouverne tout cet univers. Alors là, on est dans une histoire de pure space opéra. On est dans un immense paquebot spatial qui file vers la galaxie d'Andromède, avec un nombre de races extraterrestres incalculables. Vous devez connaître
le chiffre par cœur. Il y a plusieurs centaines, je crois qu'il y en a presque 888.
qui habite dedans. Et puis tout d'un coup, le vaisseau est stoppé car il rencontre une ceinture d'objets qui s'avère être une nécropole cosmique de la taille d'un système solaire qui bloque. Et alors là, on leur demande d'enquêter. Il faut qu'ils s'arrêtent, il faut qu'ils aillent enquêter parce que c'est les premiers sur place. Et on va envoyer des personnages. Donc ils sont, alors là, on est dans le space opéra classique de la bande dessinée, des jeunes femmes extrêmement voluptueuses, mais pas toujours, avec un casque en forme d'aquarium sur la tête qui permet de bien voir leur visage et qui vont enquêter sur une trame de 8 heures puisqu'on a un capitaine donc de ce bateau qui a la faculté de faire des boucles temporelles. On peut explorer un moment et puis si au bout de 8 heures on n'est pas satisfait de ce qui s'est passé, on peut revenir 8 heures en arrière et tout recommencer en gardant la conscience pour
seul le capitaine pour l'équipage, voilà, se souvient de ce qui s'est passé
pour pouvoir améliorer un peu les choses. Et à partir de là, c'est l'explosion et l'exploration de genre et de sous-genre, puisque il y a du space opéra dedans, mais il y a aussi ça va beaucoup plaire à Philippe Rouillet, de la nazisploitation dans le formidable retour vers le Führer. Vous avez du blaxploitation aussi d'un côté, vous avez le film de zombies, enfin tous ces genres s'agglomèrent avec ce côté showrunner qu'a Lewis Trondheim, qui était déjà en germe dans Donjon, dont plusieurs épisodes étaient confiés à d'autres dessinateurs. Lui et Olivier Vatine ont défini l'univers, là, une sorte de bible, contrôlent le travail, et après, et c'est ce qui est très surprenant dans cette bande dessinée, c'est qu'on mélange des gens qui viennent d'univers complètement différents, c'est-à-dire qu'on va mettre Emmanuel Guibert avec quelqu'un qui publie de la SF chez Delcourt, on va voir Zep qui va raconter Romance et Maccabée, on n'attend pas l'auteur de Titeuf. Là, d'où est venu ce projet assez fou, et ce plaisir de jouer comme ça avec les genres et sous-genres?
C'est Vatine qui adore la science-fiction, et moi aussi j'adore la science-fiction, j'en lisais plein quand j'étais gamin, je lisais du Frédéric Braun, du Asimov, etc., donc ça me faisait très plaisir de retoucher à la SF, outre les cosmos du futur, et surtout un peu 60s, parce que c'est ce qu'il m'avait demandé Vatine.
Wallace Wood, en fait.
Voilà, il y a un petit côté Wallace Wood tout le temps. Et il m'a demandé si j'avais pas un concept de science-fiction qui pourrait aller pour faire de la SF. Donc je lui ai dit... Je lui ai dit oui, d'accord, je vais réfléchir, et je lui ai proposé ce concept-là, qui lui a bien plu. Mais moi, c'est la première fois que je travaille comme ça, autant avec comme sur une superproduction américaine, on va dire. Parce
c'est
que,
un studio.
Oui, c'est-à-dire que Vatine, il a fait les designs 3D du vaisseau, des couloirs, des uniformes, etc. Moi, mon but, c'était de travailler avec 8 co-scénaristes différents, voir comment ils bossaient, voir comment ensemble s'enrichir de notre écriture. Au tout début, je me suis dit, on va essayer un petit peu, mais si ça se trouve, je vais dire stop très vite. Et en fait, je me suis rendu compte, en travaillant avec les co-auteurs, que ça, c'était bien, bien mieux que ce que j'aurais pu faire tout seul. Vraiment bien au-delà. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va jusqu'au bout et ça va être super. Thank you.
Gabor Szabó, choix de Laurent Polleret pour Mauvais Genre qui accueille ce soir Lewis Trondheim. On termine notre évocation de l'univers de l'inventeur de Lapineau par Mildiou, qui est aussi lapinotique, monsieur Antoine.
Oui, je l'avais déjà évoqué dans cette émission, j'avais signalé la réédition à l'association. Là encore, Lapineau revenait à l'association avec Mildiou, qui avait été publié au Seuil auparavant. Et dans tout ce que j'ai raconté sur Lewis Trondheim, je n'ai pas parlé du côté oubapien de l'homme, c'est-à-dire le versant bande dessinée de Loulipo, la bande dessinée à contrainte. Et Mildiou, c'est, s'il y avait une contrainte, ça serait faire un combat qui normalement se passe à la fin des films de Cap et d'Épée, qui durera 134 pages. Et vous nous disiez, hors micro, on va dévoiler à l'éditeur, qu'il y a un lien entre Mildiou et Ralph Azam.
Oui, c'est ça. Mildiou, c'est la fin d'un film qui est tiré sur tout un livre, donc le combat du gentil contre le méchant. Et Ralph Azam, c'est à la fin, le gentil gagne contre le méchant, et qu'est-ce qui se passe après? Et ben, j'essaie d'explorer ça avec Ralph Azam. Quand on devient le chef du pays, qu'est-ce qu'on fait avec le pouvoir? Comment on fait pour ne pas se pervertir?
Mildiou de Lewis Trondheim, c'est à l'association. Est-ce que Lapineau a déjà été confronté à la mafia?
Non, je crois pas. J'ai trop peur de me faire couper les doigts, donc j'en parle pas.
Très bien. Ben, monsieur Rouillet, lui, n'a pas peur de se faire couper les doigts parce qu'il va nous parler.
Il devrait. Si
j'étais lui, je ne ferais pas le malin.
Moi, je changerais de sujet si j'étais vous.
Va trop tard. Une rareté.
Si vous voyez ce que je veux dire.
Est-ce que vous pouvez dire que c'est une rareté de Richard Fleischer?
Absolument, oui. Le film n'existait pas en DVD. Ça s'appelle Don Angelo est mort, un film de 1973. Il n'existait pas en DVD, du moins zone 2. Il y avait un zone 1 qui traînait, qui était dans un état, assez ancien. Et là, l'éditeur Movieside nous le propose carrément en Blu-ray, avec un beau travail de restauration. Et dans une collection, c'est le lancement d'une collection polar suspense. C'est le premier volet. Donc on est très content d'avoir ce film qui a un peu mauvaise presse, parce qu'on considère que c'est un film mineur de Richard Fleischer. Et bon, évidemment, un mauvais genre, où on revient très souvent sur Richard Fleischer. Il n'y a pas une saison de mauvais genre sans Richard Fleischer. Bon, je vais pas essayer de vous dire aujourd'hui que c'est aussi bien que le tueur de Reddington Place, dont on parlait au printemps dernier. Mais un Fleischer mineur peut être très très intéressant. Pour vous dire, Fleischer, c'est quand même quelqu'un qui fait trois films en 71 et qui en fait deux, par exemple, en 73. C'est-à-dire que il fait ça juste après Soleil Vert. Voilà son année 73.
Comme Lewis Trondheim, l'infatigable générateur d'histoire.
C'est six livres par an.
La différence avec Fleischer, c'est qu'il prend parfois des commandes. Et là, c'est une commande de Al Wallis. Alors, Al Wallis, c'est un vieux producteur de la Warner. C'est lui qui a produit Casablanca en 1942. Donc, voyez le travail. En 73, il est toujours à la manœuvre. Et il a repéré quoi? Que le parrain de Coppola casse la baraque. Et il se dit, tiens, on pourrait nous aussi faire des petits parrains. Et du coup, il s'empare d'un succès de littérature qui vient de sortir, de Marvin Albert, qui est l'auteur de Tony Rome, la série des Tony Rome qui ont été après portés à l'écran par Frank Sinatra, qui est une histoire de parrain. Un parrain meurt au début, et qu'est-ce que va devenir sa famille? Sachant que son fils est un petit peu jeune pour devenir parrain lui-même, et il y a deux autres familles. Donc, alors, ce qui est très très beau, c'est que le film commence avec une scène de règlement de compte à base de trafic de drogue. C'est millimétré, c'est un chef-d'œuvre de mise en scène merveilleux, et en même temps, c'est extraordinairement violent. Et après, quand on a toute la mafia qui est en congrès, c'est comme une entreprise, c'est-à-dire qu'on est dans des sièges, on boit des boissons d'hommes, et on parle de manière très élégante, on est en costard-cravate, on demande de prendre la parole, il y a un modérateur, et moi je pense que je remercie mon noble ami d'avoir...
Conseil d'administration.
C'est un vrai conseil d'administration, mieux que dans certaines entreprises où ça doit être beaucoup plus dur que ça, mais évidemment, les décisions prises après ne vont pas, on va pas pouvoir s'y tenir, et à la suite d'un grain de sable, un malentendu, au lieu de s'expliquer tranquillement, on s'envoie des tueurs, et ça devient...
Il y a quand même un agent pervers dans tout ça.
Évidemment, il s'agit de d'attiser via une femme et faire croire que, etc. Mais Alors qu'on pourrait s'expliquer, le premier réflexe, c'est de s'envoyer des tueurs. Et ce qui est très intéressant, c'est que Fleischer arrive dans un scénario qui n'est pas forcément étincelant. Il y met à chaque fois sa petite patte, c'est-à-dire que il va remettre debout deux ou trois personnages, et puis tout de suite, il a des idées visuelles. Tout de suite, on a des séquences absolument incroyables. Et puis alors, il a ce choix, alors qu'on est en 1973, que évidemment, le nouvel Hollywood est complètement là. Lui, il décide de tourner son film en studio. Et le film devient à ce moment-là quelque chose un peu à l'ancienne. Et si on regarde en creux ce que raconte le film, ça raconte l'histoire d'une jeune génération qui veut prendre le pouvoir. Et comme il y a une jeune génération de cinéastes, en quelque sorte, qui veut prendre le pouvoir à Fleischer. Et le film a une certaine mélancolie et nous gagne aussi là-dessus en racontant cette perte de pouvoir des anciens au profit d'une jeunesse qui n'a pas forcément de règles, qui a assoiffée de sang, mais qui en même temps a un certain talent. Et le film n'est pas entièrement dans la nostalgie, mais il balade une certaine mélancolie avec un travail, c'est Howard Kane qui fait la lumière, qui est assez merveilleux. C'est lui qui avait fait la lumière de Soleil Vert et on sait que ça peut être à la fois très inventif et en même temps classique. Il y a un rythme, il y a un sens du montage chez Fleischer qui fait merveille à chaque plan. C'est parce que c'est pas un film qui réinvente l'histoire du cinéma, mais c'est un film qui apporte un grand bonheur le jour où vous le décidez de le regarder.
Avec à la place de Marlon Brando. Notre ami.
Eh ben, Anthony Quinn, Anthony Quinn. Parce que, il faut dire quand même un mot, parce qu'il y a Anthony Quinn qui est absolument extraordinaire dans le rôle du Don Angelo, hein. Don Angelo est mort, le titre français est un peu bizarre, le titre original c'est The Don is Dead, et c'est pas ce don-là, c'est Don Paolo qui est mort au début du film, et il y a deux jeunes qui sont joués par Frederick Forrest, qu'on retrouvera évidemment chez Coppola, qu'on retrouvera, et puis, Robert Forster, qui est aussi très bon, et qu'on avait perdu de vue, et que c'est Tarantino qui l'a ressuscité dans Jackie Brown.
Merci Philippe. Donc une rareté fléchérienne à découvrir chez Move Inside. On termine cette émission bien évidemment avec Belzéba et Christophe Beer.
Belzéba, la fille de Satan, fut l'une des héroïnes qui se dévêtait pour corrompre les pensées des amateurs de Fumetti per adulti, ces bandes dessinées italiennes de poche bon marché qui montaient à l'assaut de la pudeur dès la fin des années 1960. La maison française Elvie France en traduisit une quantité impressionnante pendant plus de deux décennies. Les 30 épisodes publiés à partir de 1977 ne furent jamais traduits. Aucun regret, car la série était alors torchée par Sandro Angiolini, staccanoviste bâcleur et répétitif, qui fit de Belzéba une blonde, pulpeuse comme sa célèbre Isabella, et une hermaphrodite. Or, la toute première aventure avait été publiée en 1972 sur deux numéros de la série I Notturni. Elle y était alors une véritable créature femelle, brune et dessinée par un artiste autrement plus inspiré, Stelio Fenzo, qui avait eu pour maître Hugo Pratt et dont il avait pris la relève du capitaine Cormoran. Le scénariste Paolo Trivelato avait imaginé un prologue zoophile qui expliquait la naissance contre nature de Belzéba, issue de la saillie d'une vierge paysanne par Satan qui se substituait au chien fidèle de la donzelle. Élevée aux enfers, Belzéba était missionnée par son père 20 ans plus tard pour redescendre sur Terre et y pervertir Kant, un bon et pieux prince de Norvège. Évidemment, la cruelle sorcière succombait au charme du fougueux mortel. Les éditions Tabou ont le bonheur de traduire, dans un large volume relié, cet incunable de la BD érotique à partir des planches originales. Ce travail d'impression méticuleux restitue même quelques coups de crayon et les diverses nuances de noir. Sans découpage de cases sophistiquées, Trivelato et Fenzo insufflent un rythme échevelé aux 360 pages d'amour contrarié de Belzéba, à raison de deux cases par planche, privilégiant quelques pleines illustrations pour des séquences choc, comme la découverte du corps sculptural de Belzéba adulte, léché par les flammes infernales, ou des compositions riches en décors et en personnages. La suite du scénario raille les vertus supposées du prince, que Belzéba retrouve aux enfers pour avoir péché par orgueil. À sa recherche dans le labyrinthe de la Géhenne, elle croise un Jules César sodomite éternellement empalé, un Casanova livré à un démon fellateur et Dante lui-même assis sur son œuvre. Sarcastique, Fenzo s'amuse à plonger dans une mer d'excréments des goinfres immobiles et pathétiques, terrorisés par les vagues, et suspend les onanistes par la verge. Créé par les géniteurs de Jingla la Vierge Infernale, autre belle réussite du genre, cette Belzéba midinette aurait pu plaisamment concurrencer Lucifera, la plus perfide de toutes.
Merci Christophe. On peut recommander très rapidement l'ouvrage pornographique de Monsieur Lewis Trondheim.
Oui, La Nouvelle Pornographie à l'association, un livre à la fois subjectif et abstrait à mettre absolument entre toutes les mains.
Ah bah, c'est bien noté. Merci Lewis Trondheim d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. Je recommande eh bien toutes les œuvres évoquées ce soir. Désœuvrer, un essai à l'association, un monde un peu meilleur, les nouvelles aventures de Lapineau à l'association. Density, Lewis Trondheim, Stan Evans et Walter chez Delcourt. L'Infinity 8, le jour de l'apocalypse chez Rue de Sèvres. Mildew de Lewis Trondheim, réédité à l'association. Et puis les 10 volumes de la série Ralph Azam, c'est chez Dupuis. Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Podré, Alain Jobert, Céam Boutata, Claire Martin Duguerre, Antoine Guillot, Philippe Rouillet, Christophe Bire et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous samedi prochain avec Brice Tarvel, auteur du magnifique Pierre Fendre aux éditions Les Moutons Électriques. Eh bien, on vous laisse toujours, bien sûr, à l'écoute de France Culture et les archives des années 67-68. Bonne nuit à tous.